Dans l'actualité des idées aujourd'hui, une traversée du siècle, celle d'Edgar Morin qui publie en cette rentrée « Les souvenirs viennent à ma rencontre » chez Fayard. Sociologue et bien plus, ancien résistant, communiste, théoricien de la pensée complexe, auteur du « Paradigme perdu » puis de la méthode en 77, publié en 6 volumes, ou encore de « Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur ». Il est connu dans le monde entier où il est appelé régulièrement à donner conférences et colloques. Il n'a jamais caché aussi son attachement à toutes les formes d'art, la littérature, la peinture, la musique et surtout le cinéma, cet art de la complexité comme il le définit dans un livre paru encore récemment. À 98 ans, il raconte des épisodes de sa vie qui ont compté, les rencontres qui l'ont marqué, les penseurs comme Kant et Hegel ou plus contemporains comme Cornelius Castoriadis qui l'ont influencé ou encore Pierre Bourdieu qui l'a contrarié. Bref, il se laisse gagner par le souvenir des réminiscences et non des mémoires. Bonjour à vous Edgar Morin.
Bonjour.
Avec une vie de recul, comment vous qualifieriez le XXe siècle, celui qui vous a vu naître ?
Ben vous savez, le XXe siècle a été un siècle quand même de deux guerres mondiales, est un siècle qui a vu deux religions terrestres très violentes, l'une très particulariste, dominatrice, qui était le nazisme, et l'autre plus universaliste, communisme, qui a été une religion vécue comme telle par des millions de personnes. C'est un siècle extrêmement tourmenté. Bien entendu, il a vu un certain nombre de progrès techniques, économiques, scientifiques énormes d'ailleurs. Bon, c'est un siècle complexe, mais enfin un siècle terrible.
Qu'est-ce qui qualifierait ou qu'est-ce qui le différencierait du XXIe siècle qui l'a suivi ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, à vos yeux, de nouveaux périls, de nouvelles idéologies et de nouveaux espoirs ?
Il est vrai que la suite, l'effondrement, si vous voulez, des idéologies et des systèmes totalitaires a donné un grand nombre d'espoirs qui se sont trouvés déçus. Et je pense que les périls nouveaux qui commençaient déjà à pointer dès le XXe siècle se sont déployés. Ces périls, c'est bien entendu ce qui menace notre biosphère, c'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est pas seulement la dégradation de la biodiversité, c'est pas seulement la déforestation comme en Amazonie, c'est aussi tous nos sols livrés à l'agriculture industrielle qui sont stérilisés et qui nous donnent des produits insipides ou parfois même dangereux, c'est la pollution de nos villes, et en plus, vous avez un monde livré à une économie déréglée dont on ne sait pas si elle ne va pas rentrer à nouveau en crise. Vous avez un monde où l'unification technique et économique n'a pas du tout fait une communauté de destin entre les peuples et les cultures. Au contraire, on se referme soi-même sur sa propre culture, sa propre identité. On n'a pas pris conscience de l'ensemble des périls. Les fanatismes se multiplient. Un peu partout, des États néo-autoritaires arrivent au pouvoir et il y a une crise mondiale de la démocratie. Bref, si vous voulez, c'est un siècle qui se présente un certain nombre de dangers, pas du tout du même type, mais peut-être parfois plus immenses, puisqu'ils vont couvrir l'ensemble de la planète Terre.
Vous affirmez et affichez aujourd'hui votre sensibilité écologiste. Alors le XXIe siècle sera-t-il celui de l'écologie? Ça, c'est une question qui reste encore ouverte. Hier, communiste, aujourd'hui, écologiste, c'est des sensibilités contradictoires.
Mais vous savez, j'étais un communiste de guerre, c'est-à-dire je suis entré dans la résistance et en même temps dans le Parti communiste en 1900, début 42, et j'ai été désabusé dès les années 48, 49, 50. Donc c'est un épisode très important de ma vie, mais très court, et que dès les années 50, je n'appartiens à aucun parti. Et alors, bien entendu, l'écologie pour moi n'est pas une sorte de dogme. Pour moi, l'écologie doit être intégrée à une grande pensée politique sur l'humanité, parce que aujourd'hui, le problème n'est pas seulement de sauvegarder la nature extérieure, c'est de voir que nous sommes menacés de l'intérieur par notre mode de vie, notre mode de consommation, notre mode de circulation, notre façon d'être soumis à la dictature du profit et qui est contraire, disons, à la possibilité de régénérer la planète. Donc, si vous voulez, je suis un indépendant, je me définis de gauche, mais pas du tout à la façon des partis officiels de la gauche, à ma façon, à moi. Et donc, voilà, l'écologie, non, je dirais qu'aujourd'hui, mon souci principal, c'est le destin de l'humanité sur la planète Terre, et dont, évidemment, l'écologie est un des problèmes.
Alors, opposer la fin du mois et la fin du monde, comme certains l'ont fait, est-ce que c'est pour vous un contresens aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réconcilier ces deux ambitions et ces deux finalités?
Mais vous savez, le problème du mois, c'est que dans nos sociétés occidentales et occidentalisées, le légitime développement de l'individualisme et de l'autonomie individuelle, de la responsabilité de son propre destin, de son mariage ou de sa carrière, ce sont des conquêtes. Mais l'envers de ces conquêtes, ça a été la refermeture individualiste sur l'égoïsme, ça a été la destruction des solidarités qui existaient au préalable et qui n'ont été remplacées que par une solidarité bureaucratique chez nous, la Sécu. C'est-à-dire que concrètement, quand quelqu'un tombe dans la rue, dans le temps, on se précipitait pour l'aider, pour le rassurer. Ici, maintenant, les gens passent en disant c'est au SAMU de s'en occuper ou à la police. Donc, si vous voulez, il y a une dégradation. Et pour moi, je pense qu'être pleinement humain, c'est à la fois s'épanouir comme individu, mais toujours dans une communauté, dans une fraternité, à commencer par la famille, et aujourd'hui, élargie à toute l'humanité.
Mais il ne va pas si bien, notre collectif, aujourd'hui, Edgar Morin. Et vous l'avez vous-même souligné au moment du mouvement des Gilets jaunes. Vous aviez vu dans ce mouvement une crise de foi, une crise de foi dans les institutions, dans les partis, dans la démocratie. C'est pas un aveuglement, c'est une quête de remède que la société, aujourd'hui, le système tel qu'il est, n'apporte plus.
Mais vous savez, c'est que le grand problème, c'est qu'il y a un vide de la pensée politique, que la pensée politique s'est progressivement réduite à l'économie et que l'économie s'est progressivement réduite à une conception qu'on appelle néolibéralisme, qui pense que simplement le profit et le marché et la richesse vont ruisseler naturellement s'il y a un développement de la croissance. Or, ce genre d'idée, évidemment, me semble tout à fait erroné. Et dans ces conditions-là, la tragédie, c'est qu'il n'y a pas une conscience, une pensée capable d'affronter les grands problèmes fondamentaux de notre nation, qui sont en même temps ceux de l'Europe, qui sont en même temps ceux de la planète. C'est ce vide intellectuel qui s'est manifesté d'ailleurs en France dans la désintégration du parti de gauche et dans la sclérose du parti de droite, ou dans la possibilité de ce que on appelle bêtement populiste, c'est-à-dire des tendances un peu néo-autoritaires et hyper-nationalistes. Ça, c'est voilà, on vit une tragédie actuellement.
Ça, c'est les symptômes de cette crise de la démocratie, hein. Mais quels en sont les remèdes pour vous ?
Alors, les remèdes, pour moi, vous savez, ce ne sont pas des solutions qu'on tire de sa poche. Les remèdes, c'est qu'il faut, c'est un long chemin. D'abord, il faut repenser la politique. Il faut proposer une nouvelle voie. Il faut une nouvelle voie cohérente et qui donne un certain espoir. Non pas un espoir d'un monde merveilleux, mais d'un monde meilleur ou moins terrible. Donc, il faut une repensée politique. Bien entendu, nous voyons en France et un peu partout dans le monde un bouillonnement d'initiatives dans le sens des solidarités multiples, dans le sens d'une économie sociale et solidaire, dans le sens d'une agriculture fermière ou écologique. Nous voyons beaucoup de mouvements, d'aspirations. Et les Gilets jaunes ont été une des expressions d'aspiration, mais je pense qu'il y a un long chemin à faire. Il n'y a pas de solution immédiate. Ce que je souhaiterais, c'est qu'un pays comme la France puisse donner l'exemple d'une nouvelle voie, et je l'attends.
Vous l'attendez. Écologie, on en parlait avec vous, Edgar Morin. Vous n'êtes pas un converti sur le tard dès les années 70 aux côtés d'Ivan Illich et d'autres comme André Gorz, René Dumont. Vous avez sensibilisé et tiré la sonnette d'alarme sur ces questions. Vous vous êtes inquiété pour la situation du climat. Aujourd'hui, il y a de nouvelles figures, de nouvelles voix qui émergent, comme celle de la Suédoise Greta Thunberg. C'était en juillet dernier à l'Assemblée. Réécoutons-la.
Certains leaders politiques dans certains pays commencent à parler, commencent à s'exprimer, à déclarer une urgence climatique et à poser des jalons pour aboutir à la neutralité carbone. Déclarer cette urgence climatique est une bonne chose, mais établir ces jalons très vagues et dire toutes ces choses nous donne l'impression que les choses sont en train d'être faites, que les actes sont posés. Et cela risque d'être plus nuisible qu'autre chose, car nous savons que les changements ne sont pas à l'horizon, pas plus en France qu'au Royaume-Uni, nulle part. Et je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif, le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait.
Apart from clever counting and creative
PR. Évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication.
Est-ce qu'elle a raison surtout pour vous, Edgar Morin, ou est-ce qu'elle est encore un peu une jeune pousse, un peu fraîche dans son raisonnement, Greta Thunberg?
Écoutez, c'est un raisonnement très sain. Cette prise de conscience d'une partie de la jeunesse est importante. Mais je pense qu'il doit être poursuivi dans une repensée politique. Vous savez, prenez par exemple les grandes pensées politiques comme celle de Tocqueville ou celle de Karl Marx. Pendant longtemps, elles ont été solitaires. Il a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour qu'à partir de la pensée de Marx, vienne le premier parti social-démocrate allemand, etc. Autrement dit, il faut d'abord partir d'une pensée vraiment complexe qui prend conscience des grands défis dont, et qui, à ce moment-là, élabore la possibilité d'une voie nouvelle. Ça a commencé un peu en France avec des messages qu'ont fait Nicolas Hulot, par exemple, et M. Berger aussi. Mais je veux dire que nous sommes à un stade préliminaire. Nous ne sommes pas du tout, disons, à un moment important. Et d'ailleurs, la déclaration que vous venez d'entendre nous montre que il y a des paroles, mais c'est très difficile dans un monde où les nations, où les États sont mus par des intérêts égoïstes, de trouver le sens de l'intérêt commun. C'est ça le problème clé. On n'a pas encore trouvé le sens de notre communauté humaine de destin, et sans qu'on l'a pas, on ne pourra pas avancer.
On n'a pas non plus encore trouvé la voie. Pour reprendre le titre de l'un de vos ouvrages, Edgar Morin, on n'a pas trouvé encore la direction à prendre.
Voilà, on n'a pas trouvé la voie, la nouvelle voie. Moi, j'ai essayé de la formuler justement dans l'ouvrage auquel vous faites allusion, mais c'est resté solitaire. Je veux dire que les politiques ne m'ont pas lu, il y a des gens qui m'ont lu, mais des citoyens comme vous et moi. Mais je veux dire que j'ai fait mon possible pour essayer d'aider à cette prise de conscience.
Si je reprends juste la jeune figure de Greta Thunberg, vous comprenez la violence des réactions d'une partie de la classe politique et de l'opinion à son égard, voire à son encontre?
Eh bien écoutez, ça tient à l'aveuglement parce que c'est très difficile. Vous savez, on est dans une civilisation qui s'est fondée sur la séparation totale entre ce qui est humain et ce qui est naturel. Dieu a créé l'homme à son image, pas du tout. Paul a dit que seuls les hommes vont ressusciter et pas les animaux. Descartes a dit que les animaux étaient des pures machines et que nous, on avait une âme et un esprit. Bon, Et puis alors, on a dit que notre civilisation doit dominer la nature et dominer le monde. Toutes ces idées sont fausses. Aujourd'hui, on se rend compte qu'à vouloir de dominer la nature, on est en train de se suicider nous-mêmes. Mais pour comprendre, pour réaliser que on fait partie de ces natures tout en étant autre par notre humanité, notre esprit, notre culture, mais que nous avons un lien ombilical. C'est très très difficile et dans le fond c'est une longue marche et la question c'est de savoir si la prise de conscience viendra au bord de l'abîme ou si elle risque de venir trop tard.
C'est ça la sagesse de l'homme de 98 ans, Edgar Morin. Est-ce que vous êtes sage vous d'abord ?
Vous savez, je ne suis pas sage dans le sens où la sagesse serait d'être toujours très raisonnable. Je pense que la vie doit être un cocktail de passion et de raison. Je pense qu'il faut toujours avoir la petite lumière de la raison pour éclairer ses passions. Mais sans passion, on n'est rien. Et s'il n'y a pas la passion, disons, de vouloir le bien de l'humanité ou le bien de son pays ou le bien ou le salut d'autrui, à ce moment-là, on n'est rien du tout. Je pense donc, si vous voulez, que le mot sage, je ne l'accepte que si on accepte la part de folie qu'on peut mettre dans la sagesse.
Une vie de rencontre, une vie de combat aussi, que vous racontez à travers cet ouvrage, Les souvenirs viennent à ma rencontre, qui paraît chez Fayard, Edgar Morin. Cette rencontre avec vos souvenirs, ça a provoqué des sensations agréables, parce que c'est quand même une manière de relire sa vie. Est-ce que ça s'est fait, cette relecture, cette rencontre avec vos souvenirs, dans un mouvement, une sensation chaleureuse ?
Oui, parce que j'ai redonné une vie dans mon esprit, dans mon cœur, à des amis morts, et que dans le fond, je les ai provisoirement, enfin, d'une certaine façon, redonné cette vie artificielle qui est à travers le livre. Mais en l'écrivant, ce livre, j'ai eu beaucoup d'émotions, parce que ce livre n'a existé que parce qu'au début, je pensais rendre hommage à des personnes que j'ai trouvées admirables dans la résistance, par exemple, et aussi dans d'autres conditions, et qui sont complètement ignorées et oubliées. Bien sûr, j'ai connu des personnes très connues, comme Mitterrand, comme André Breton, mais si vous voulez, la résurrection des amitiés vécues, des amours vécues, est quelque chose qui m'a satisfait. J'étais content de pouvoir cette chose-là, avec beaucoup d'émotion, bien entendu.
Donc, d'une certaine manière, vous pourriez dire que vous avez bien vécu jusqu'ici, intensément, que vous avez eu pour l'instant une bonne vie. Mais si on parle de ces souvenirs qui remontent à la surface aujourd'hui, est-ce qu'il y en a que vous auriez préféré ne pas revoir, ne pas re-rencontrer, laisser enfouis ?
C'est surtout le souvenir de mes négligences à l'égard de personnes qui ont été très bienfaisantes pour moi et pour lesquelles je n'ai pas assez bien manifesté ma reconnaissance. Ce sont beaucoup plus mes propres, disons, lacunes à moi que je regrette, mais je ne peux pas regretter d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, puisque les événements ont commandé et pas moi. Il y a parfois, j'ai réagi avec un certain retard, mais je crois que j'ai évité surtout, je crois que j'ai surtout évité le...
Ah, le téléphone sonne. Bon.
Je crois que j'ai évité, si vous voulez, la dérive. J'aurais pu dériver, j'aurais pu devenir un communiste sectaire et fanatique. Je n'ai pas été. J'aurais pu dériver, j'aurais pu accepter les événements, vivre au jour le jour et de me foutre complètement de ce qui arrive dans le monde. Je ne l'ai pas été. Si vous voulez, ce que je crois, c'est que j'ai évité des dérives. Mais dans le fond, je ne suis pas un être parfait, j'ai des lacunes, j'ai des erreurs. Et dans le fond, ce que j'ai fait dans ce livre-là, ce n'est pas m'auto-statufier. Je montre que je suis un être qui vit aussi comme tout le monde, qui a ses petits côtés, ses petites obsessions, ses petites manies. Voilà, j'essaie de montrer que de tout ça.
Vous entrez en 1950, Edgar Morin, à 30 ans, au CNRS. Est-ce que vous diriez que vous vous êtes, à ce moment-là, engagé en sociologie? Est-ce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la vocation pour vous, quand vous choisissez cette discipline?
Non, l'ordre de la vocation, pour moi, était englobé la sociologie, mais était beaucoup plus vaste, puisque mon premier livre s'appelle « L'homme et la mort », et que dans le fond, c'est, disons, ce serait presque de l'humanologie qui n'existe pas, c'est-à-dire une science où, pour comprendre les attitudes humaines devant la mort, je suis obligé de puiser le savoir de disciplines extrêmement diverses, multiples et compartimentées les unes par rapport aux autres. Donc, si vous voulez, c'était ça, ma vocation, que j'ai continuée. Et la sociologie, il y a toujours un aspect sociologique dans ce que j'ai écrit. Il y a certaines études qui sont sociologiques, comme la rumeur d'Orléans ou d'autres, mais la sociologie n'est qu'un aspect de, pour moi, ce qui est la science, la connaissance de l'homme.
Vous allez mener dans les années 60 une étude transdisciplinaire sur une commune en Bretagne, Edgar Morin, Plauzévet, où vous avez séjourné pendant un an, qui donnera lieu à un livre, Commune en France, la métamorphose de Plaudémet en 67. 10 ans plus tard, un peu plus même, Antoine Dumayet est retourné à la rencontre des habitants de la petite commune. Et voilà ce qu'il disait, ils évoquaient quand même une certaine déception et amertume pour certains qui s'étaient sentis un peu spolier, le sentiment d'une parole volée.
Il y a quand même de grosses erreurs. Par exemple, M. Morin dépeignant le cimetière et disant que la seule tombe au cimetière n'ayant pas de croix, c'était celle du docteur Sartre. Il y en a d'autres. Il y a la tombe de mon mari à côté qui n'a pas de croix. Et bien d'autres encore.
Et déjà, ils nous traitaient de bolcheviques. Quoi, nous sommes plus bolcheviques que les autres, non? Parce que nous sommes dans un pays ici que quoi
on est tous communistes, quoi, du plus ou moins, quoi. Presque tous, au moins, quoi.
Il a donné une image de Plaudémet assez exacte, mais il n'avait pas raconté ce qu'il a raconté, puisque les gens ont cru que c'était la suite toujours de l'enquête faite par le Musée de l'Homme. Alors, ce n'était pas le cas. Alors, il prétend être venu à Plaudémet pour le CNRS, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, puisqu'il en a fait un roman. C'est peut-être pas un roman, moi.
Pas tout à fait
un roman. Un roman. Enfin, pour pas mal de personnes, il est considéré comme un roman.
Il a tromperie un peu, donc.
Je pense. Je l'avais déjà dit à l'émission de M. Picton, et ici, pour moi, c'était un abus de confiance, puisqu'il n'avait pas prévenu qu'il allait éditer un livre sur l'enquête qu'il faisait. Et je maintiens mon point de vue.
Ils n'ont pas compris l'esprit breton. Et peut-être pas l'esprit breton, mais l'esprit de Plaudémet n'est pas, par exemple, n'est pas le même que celui de Poudrezic, ni celui de Pont-l'Abbé.
Et s'ils ne l'ont pas compris, c'est peut-être parce que vous ne leur avez pas expliqué.
Voilà, un reportage qui était diffusé une dizaine d'années après, en 76, sur la chaîne des régions, sur France 3 aujourd'hui. Vous diriez que vous vous êtes trompé à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises dans vos différentes enquêtes? Ou est-ce que c'est tout le décalage, la perception entre les gens, la parole des enquêtés et le regard du sociologue?
Écoutez, moi je suis resté un an vivant dans un penty, c'est-à-dire dans une petite maison sur terre battue à Plaudémet, vivant parmi les gens. Je crois que, à part une erreur de chiffre, je n'ai fait aucune erreur. Ce qui m'a été reproché à l'époque, c'est-à-dire que les officiels, voyez, c'était pas un livre de compliments pour leur propre gestion municipale, que je montrais que le parti blanc, alors que c'était le parti rouge, avait fait des choses intéressantes chez les jeunes agriculteurs. Je n'ai fait aucune indiscrétion sur la vie sexuelle des gens et sur tout ça. J'ai fait un peu allusion, disons, au problème de l'alcoolisme, mais j'ai pas du tout insisté. Mais ce que je veux dire, c'est que la municipalité, il y a une dizaine d'années, la nouvelle municipalité m'a fait citoyen d'honneur. Je veux dire que des malentendus peuvent rester. Mais toute cette campagne qui a été menée contre moi, à ce moment-là, auprès de braves gens qui avaient l'impression que je les espionnais, que toute cette campagne s'est progressivement dissoute. Bien entendu, il peut rester des choses. Ce que vous donnez, c'est 10 ans après, Mais là, moi, je peux vous montrer que je suis citoyen d'honneur et que
le maire
m'a honoré. Ouais. Et que, voilà.
Vous a nommé citoyen d'honneur. Cette séquence, cette expérience, vous la racontez hein, dans cet ouvrage, les souvenirs viennent à ma rencontre pour montrer aussi les quiproquos qui peuvent naître de certaines enquêtes. Ce qui est important, c'est le sens et la valeur de la parole qu'on vous confie, hein, comment ne pas la trahir. Vous avez dû toute votre vie prendre cette parole et lui donner sens. Comment vous la percevez? Comment vous percevez cette confiance qui vous est faite quand on vous confie une parole, Edgar Morin?
Vous savez, le problème pour moi est d'essayer de ne pas donner à connaître ce que cette parole peut avoir de privé et de personnel. Mais parfois, quand elle avait un sens... Alors, je vais vous donner un petit exemple. Dans mon livre, je dis que dans le temps, quand un garçon ratait le bac, on le réprimandait. Et que maintenant, quand il le ratait, on le consolait en lui offrant un vélo ou une petite moto. C'est-à-dire une petite évolution dans les mœurs. Bon, j'avais ça relevé dans un ou deux cas. Et comme c'était un cas assez général, les gens ont dit « Mais comment sait-il tout ça ? Comment as-tu pu savoir ?» Ils avaient l'impression, donc, après que je m'étais introduit comme le diable boiteux à l'intérieur de leur domicile. Et sinon, je crois qu'aujourd'hui, vous pouvez voir tous les représentants de Plosevet et du reste qui continuent à estimer que mon livre est un livre historique pour eux, pour leurs anciens, et qui a une valeur même, disons, historique. Parce que c'est un livre sur la transition qui a transformé une France rurale en une France modernisée avec tout ce que ça comporte.
Autre période historique sur laquelle vous vous attardez dans ce livre qui paraît chez Fayard, Edgar Morin, Les souvenirs viennent à ma rencontre, c'est mai 68. Vous avez toujours été, et vous l'assumez, un sociologue du temps présent. Aujourd'hui, en 2019, comment vous interprétez ou réinterprétez cette époque-là à l'heure où l'héritage de mai 68 est largement remis en cause par certains, Jean-Pierre Le Goff, à Brice Couturier encore, notre chroniqueur éditorialiste qui vient de publier un 1969 9 années fatidiques.
Oui. C'est-à-dire que c'était un phénomène aux aspects tellement multiples qu'on pouvait faire plusieurs interprétations. Mais ce qui s'est passé, c'est que la grande illusion qui est née après 68, ou même dès 68, notamment chez les maoïstes, chez les trotskistes, chez ceux qui étaient parmi les meneurs du mouvement, était qu'une révolution était en préparation. Et dans les textes que j'ai faits, et que j'ai faits aussi avec mes amis Claude Lefort et Castoriadi sur mai 68, j'ai dit que ce n'était pas une révolution, c'était une brèche dans notre civilisation, que peut-être ça préfigurait des aspirations futures. Autrement dit, le diagnostic que j'ai fait sur mai 68 était exact. Maintenant, les conséquences de mai 68 se sont dévoilées progressivement dans les années suivantes. C'est surtout l'échec des aspirations, l'échec de la croyance en la révolution qui a fait que cette retombée et que beaucoup de ces leaders révolutionnaires se sont installés dans le monde tel qu'il est et ont accepté de redevenir des bourgeois normaux ou anormaux. Donc, si vous voulez, moi je considère que mai 68 reste un moment très important parce que c'est une éruption totalement inattendue à l'époque, que je crois que j'ai fait d'analyse, et qu'après on peut voir les aspects négatifs, les aspects positifs, et la polémique reste ouverte, c'est comme la Révolution française, vous savez, c'est pas éteint tout ça.
Et l'interprétation aussi, puisque vous n'avez cessé d'interpréter et réinterpréter cette période-là. Alors dans ce recueil, on croise aussi des figures féminines qui vous ont marqué, bien sûr celle de votre mère, à qui vous avez déjà consacré un roman, L'île de Luna, écrit il y a 70 ans, qui est publié publiée, qui était publié assez récemment et dont vous étiez venu nous parler, mais on retrouve aussi le visage de l'écrivaine Marguerite Duras, avec laquelle vous avez vécu en communauté à la fin des années 40 et été des amants virtuels, puisque rien ne s'était passé. Et puis, on voit aussi dans ce recueil l'importance pour vous du cinéma dans votre vie. Et c'est intéressant de comparer la démarche du cinéaste à celle du sociologue. On va y retourner rapidement avec un extrait de Chronique d'un été, un film que vous avez co-réalisé avec Jean Rouch, sorti en 1961, où vous posiez la question à des personnes d'âge et de milieux très différents, la question du bonheur. Êtes-vous heureux ?
Est-ce que vous êtes heureux ?
Presque.
Et toi ?
Presque.
Alors, qu'est-ce qui manque ?
J'ai honte de le dire. De l'argent.
Et toi ?
De faire ce que je voudrais faire.
C'est-à-dire ?
Me livrer à ce qui m'intéresse.
Eh bien, mais ça revient au même, parce que si on avait de l'argent, il pourrait se livrer à ce dont il a envie. Enfin...
Bon, alors maintenant, tu es heureuse en quoi ?
Mais... Ben, j'estime que malgré tout, je suis assez gâtée pour la vie, parce que j'aime mon mari, j'aime mon fils. J'ai une situation, une petite situation, mais qui me plaît.
Pour moi, le travail, c'est du temps perdu.
D'accord, mais tu te souviens, tu as milité, on militait au même parti, c'est-à-dire on aspirait à une autre vie.
Oui, bien sûr.
Alors on met une croix là-dessus.
Là, les idéaux ne sont pas toujours réalisables et même pas souvent réalisables.
Voilà, la question du bonheur, Edgar Morin, elle était centrale dans les années 60, elle l'est encore aujourd'hui et j'imagine pour vous aussi. Alors est-ce que vous êtes heureux ?
Mais moi, je ne peux pas répondre directement à cette demande parce que pour moi, le bonheur, ce sont des périodes ou des moments de la vie. Non, pour moi, le plus important, c'est l'aspect poétique de la vie, c'est-à-dire l'aspect de communion, de ferveur, d'admiration, d'amour, tout ça. Et ça, j'essaye de le vivre toujours et pleinement. Pour moi, c'est ça le sens de la vie. Et ce sentiment poétique peut me donner le bonheur, mais peut me donner aussi du malheur quand je perds la personne aimée qui meurt ou qui disparaît. Donc, si vous voulez, ma vie est une succession de moments merveilleux d'épanouissement et de moments tragiques, de pertes, de douleurs, d'amis. D'abord, à commencer par la main de ma mère. Donc, si vous voulez, on ne peut pas mettre l'étiquette heureux globalement sur quelque chose. Non, j'ai des moments de tristesse, de douleur, de révolte, et puis j'ai des moments d'émerveillement, de joie, notamment de communion amoureuse avec ma compagne Sabah, ou de communion intellectuelle avec elle aussi. Donc si vous voulez, le problème, c'est résister à la prose de la vie qui vous envahit de tous côtés avec la quantification, le calcul, le profit, toutes ces choses-là, l'asservissement à des règles de travail de plus en plus contraignantes, de plus en plus bureaucratisées. C'est résister à la prose de la vie et essayer de trouver la poésie de sa propre vie. C'est ça mon idée.
Merci beaucoup à vous, Edgar Morin. Les souvenirs viennent à ma rencontre, vient de paraître chez Fayard. Merci d'être venu autour de cette grande table. Un grand merci à toute l'équipe, à Mayan Escovic et Laura Dutèche-Pérez pour la grande table des idées, à Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la grande table culture, avec l'aide précieuse de François Bréus et de Sophie Marty. À la réalisation aujourd'hui, c'était Éric Lancien avec Gilles Blanchard et Jean-Frédérix à la technique. Toute l'équipe de la grande table vous retrouve demain pour une nouvelle émission.